I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonsoir à tous, joyeux Saint-Valentin à tous. Alors j'ai un petit bouquet clair que je veux partager avec vous. On vous aime. Regardez la déco du plateau, c'est pour vous, téléspectateurs de Face à l'Info, les fidèles des fidèles, on vous aime.
C'est une idée de Mathieu.
C'est une idée de Mathieu.
Non, c'est qui flonflon.
Il n'y a que moi qui peux avoir des idées comme ça. Oui, je suis désolée, un peu folle.
Se faire envoyer sur les roses dès le début de l'émission.
On va le faire tout de suite. Ça va, Michael Dos Santos?
Ça va très bien. Votre plateau est magnifique.
Oh, c'est gentil comme tout. Oh, vous risquez de rester plus. Quelles sont les infos du soir?
Allez, foie gras, confit et graisse, c'est une mauvaise nouvelle. Pour le coup, 15 références de produits à base de canard rappelé pour risque botulique. Selon le site gouvernemental Rappel Conso, ces produits de la marque La Ferme aux Délices Royales sont commercialisés dans plusieurs départements français, notamment dans les magasins Intermarché. Pour rappel, le botulisme peut engendrer des problèmes de vision, la paralysie de certains muscles et même la mort dans 5 à 10% des cas. Le trafic SNCF sera fortement perturbé pour ce premier week-end de départ en vacances. Un TGV Inouï et Ouigo sur deux circulera vendredi, samedi et dimanche. Cela fait suite à un mouvement de grève des contrôleurs qui réclament entre autres des revalorisations salariales. Enfin, le Sénat fait un premier pas pour l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Malgré des réserves, la commission des lois de la Chambre haute a décidé de ne pas s'opposer à la réforme gouvernementale. Un vote à suspense aura lieu le 28 février prochain dans l'hémicycle. Le projet de loi avait déjà été adopté par l'Assemblée nationale.
Merci infiniment, Michael Dos Santos. Et au sommaire ce soir, alors que l'ARCOM est sommé par le Conseil d'État d'aller au-delà de la loi pour décompter tout type d'intervenants sur les chaînes, en quoi cette controverse dit-elle quelque chose sur l'état de la démocratie française? Et puis comment analyser la difficile défense de Reporters sans frontières sur CNews ce matin avec Christophe Deloire, l'édito de Mathieu Bocoté. Alors que le chancelier allemand Olaf Scholz veut que l'Europe, je cite, produise des armes à grande échelle, alors qu'il critique les ambitions impériales de la Russie, on se demandera pourquoi cette apparente volonté de la part de l'Union européenne d'une guerre avec la Russie. Une guerre sans chercher de compromis, sans chercher la paix. Pourquoi cette course à l'armement et à l'escalade dangereuse vis-à-vis de Moscou? L'analyse de Guillaume Bigot. Alors que le président de la République a annoncé l'éloge funèbre pour saluer la mémoire de Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, votre nom devra s'inscrire au Panthéon, a d'ailleurs précisé Emmanuel Macron. Pour Robert Badinter, je cite, « le combat contre la mort devient sa raison d'être », a déclaré Emmanuel Macron. Quelle est l'histoire de l'abolition de la peine de mort? Marc Menant raconte l'obsession d'une vie à partir d'une exécution, le 28 novembre 1972, celle de Roger Bontemps. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui, vous l'avez vu sur le plateau, c'est également le début du carême. Qu'est-ce que le carême? A-t-il encore un sens aujourd'hui? Pourquoi est-il comparé au ramadan? Pourquoi n'est-il pas inscrit dans le calendrier, au même titre que l'Assomption ou encore l'Annonciation? Le décryptage de Charlotte Dornelas là ce soir. Et puis tous commémorent, on le disait, Robert Badinter aujourd'hui, hommage largement mérité. Mais quelques petites voix s'élèvent pour se demander si la gauche n'a réussi pas à capter, à confisquer l'imaginaire du pays, à choisir ses héros et faire en sorte qu'ils soient les héros de tous les Français. Ou bien deviennent-ils héros français en dehors de leur appartenance? L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse. C'est parti. Vous allez râler pendant toute la soirée ou bien...
Ah bah bravo.
C'est le schtroumpf du grognon. Dans les schtroumpfs grognon.
Je suis le nain, le comment il s'appelle?
Non,
j'ai qu'à le grognon.
Marc Menon a dit qu'il avait oublié complètement la Saint-Valentin, une fête jamais aucune fête.
Ah non, fête. Je suis tout ce qui est institutionnalisé comme ça. On m'oblige pas à aimer tel jour.
Eh ben, nous sommes là, Charlotte, moi, nous sommes là pour vous rappeler voilà, le sens des choses. Surtout le carême, on va voir ça dans un instant. Alors que, moment de gêne ce matin sur CNews, je ne sais pas si vous avez pu assister à cet entretien chez Pascal Pro, alors que Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, qui accuse CNews et aussi délégué général des États généraux de l'information, il a été nommé par l'Élysée. Pascal Pro a souligné ce conflit d'intérêts. On en parlera certainement. Christophe Deloire, Mathieu Bocoté, a aussi, de son côté, justifié la décision du Conseil d'État au nom de la défense de la démocratie. Il en a étonné plus d'un. En quoi cette controverse qui continue encore aujourd'hui dit-elle quelque chose sur l'état de la démocratie française?
Je crois qu'elle va durer pour un bon moment, cette controverse. On est dans un moment tournant. Un moment de bascule. Alors, je note, c'est à porter à son crédit, Christophe Deloire s'est présenté librement. Je crois que de son propre chef, il s'est présenté sur le plateau de Pascal Pro. Donc, très bien, c'est un homme qui ne fuit pas l'adversaire.
C'était il a été courageux, oui.
Ensuite, je suis obligé de le constater, je ne sais pas s'il s'est effondré intellectuellement devant Pro ou s'il est naturellement aplati et incapable de prendre de la hauteur intellectuelle. Donc, est-ce qu'il s'est effondré ou est-ce qu'il est naturellement sur le mode de l'encéphalogramme plat? Je l'ignore, mais ce que je sais, c'est qu'il a été au niveau zéro dans la défense de la cause qu'il a pourtant fait sienne, c'est-à-dire le désir de censurer CNews. Je note, soit dit en passant, et ça commence à ressortir ici et là, que Reporters sans frontières est une organisation qui est souvent aux abonnés absents lorsque les journalistes sont menacés en France ou interdits d'accès à la vie publique en France. Trois exemples. Quand Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire a été menacé de manière assez sérieuse, même menace de mort, je ne me trompe pas, est-ce qu'elle a bénéficié de l'appui de Reporters sans frontières? Lorsque, de même, Boulevard Voltaire, toujours, je perds le nom de leur journaliste, mais qui a vu son micro cassé par des antifas, est-ce que Reporters sans frontières s'est porté à la défense à ce moment-là de ce journaliste agressé par des militants antifas? J'en ai pas le souvenir. Lorsque Pierre Sautarel de F2 Souche a dit aujourd'hui, puisqu'il fait un travail de revue de presse significatif, il a dit « J'ai demandé un jour l'aide de Reporters sans frontières, on lui a dit « Pas le temps, désolé, on n'a personne au bureau ces temps-ci ». Lorsque Sophie Binet dit « Je ne veux pas répondre aux journalistes de CNews hein, » dans une mêlée de presse, rappelez-vous ça, et elle dit « Je vous réponds pas, votre micro est là, je ne réponds pas, décampé ». Est-ce que Reporters sans frontières se porte à la défense dans les circonstances de CNews? Je n'en ai pas le souvenir. Si tel est le cas, merci de me le rappeler. Donc, Reporters sans frontières est souvent absent lorsque la liberté de presse est concrètement menacée en ce pays. Donc, c'est la première chose qu'il faut rappeler, je crois. Ensuite, il y a eu ce matin, donc il y a eu l'échange assez vif entre Pascal Pro et Christophe Deloire, mais je crois que le moment...
On verra des extraits dans un instant.
Absolument.
Je vais vous montrer deux extraits passionnants.
Mais le moment le plus important, selon moi, met en scène notre amie Charlotte et Deloire, parce que cette démarche de Reporters sans frontières est fondée sur un rapport. Le rapport de François Jost, qui est un rapport, ici, un exemple de chaîne d'opinion. François Jost, professeur émérite à la Sorbonne et sémiologue. Et c'est un rapport, donc Charlotte questionne Deloire sur le rapport qu'il utilise, donc la méthodologie du rapport qui fonde ensuite la démarche de RSF, qui fonde dans la décision du Conseil d'État. Sans ce rapport-là, qui est censé dévoiler quelque chose d'atroce, eh bien, la suite n'est pas possible. Donc, Charlotte questionne Deloire à propos du rapport qui fonde la démarche de Reporters sans frontières. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? C'est que Deloire est absolument inconscient ou ignorant du contenu du rapport. On lui fait remarquer, vous trouvez ça normal, vous, par exemple? On le disait hier, que la norme soit donnée, il y a la norme BFM, et si vous n'êtes pas dans la norme BFM, vous n'êtes pas dans l'objectivité, vous êtes dans la subjectivité. Et là, il est complètement, il ne sait pas exactement ce qui se passe. On dirait, il est tout à fait surpris. Ah bon? Et à plusieurs, et Charlotte donc, mentionne des failles méthodologiques réelles dans ce rapport. Il n'en est pas conscient. Et à ce moment, je pense qu'on voit une forme, le véritable effondrement intellectuel, il est là. La base de son action, il ne la comprend pas. Mais peut-être est-ce une esquive légitime de sa part, parce que ce rapport de François Jost, sémiologue, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, est d'une nullité sidérale.
Pourquoi dites-vous ça?
Parce que je suis honnête. Parce que c'est un document d'une médiocrité épouvantable et que ce document serve encore aujourd'hui à appuyer sur le mode scientifique le procès mené contre CNews en dit beaucoup sur la facilité qu'on peut avoir aujourd'hui. On lance quelques formules, quelques statistiques dans les médias, quelques rapports vite faits, médiocres, sans envergure, eh bien, tout ça, on les lance, et là, ces chiffres ou ces citations ou ces rapports circulent comme s'il s'agissait désormais de vérités scientifiques.
Là où je vous rejoins, j'ouvre une petite parenthèse rapide, c'est que pour décompter une chaîne télé sur un sujet, il y a un organisme, un seul, officialisé par l'État pour le faire, c'est l'ARCOM. Et tout autre organisme qui pourrait le faire, ça n'est pas du tout le label officiel et ça n'est pas vérifié, il n'y a pas de base juridique. Donc effectivement, se baser sur un rapport comme celui-ci, ça pose question par rapport à une institution comme l'ARCOM qui a été créée, fondée par l'État pour être indépendante et justement pour faire ce type de décompte.
Et j'ajouterais qu'un rapport indépendant pourrait être un rapport de grande qualité. Mais ce n'est pas le cas. C'est un rapport indépendant et médiocre de M. François Jost. Alors, je donne quelques exemples là-dedans. Il y a un chiffre qui circule depuis longtemps. Juste quelques exemples, mais je pourrais en donner tant. On nous dit 66 % des intervenants, par exemple, à Midi News, mais plus largement 75 %. Donc, Midi News, c'est l'émission de Sonia Mabrouk. Mais 75 % des intervenants seraient de droite ou d'extrême droite. Est-ce qu'on trouve une définition minimale de droite ou d'extrême droite dans ce rapport? Et comment, en fait, et au-delà des participants politiques, hein, qui représentent des partis, c'est quoi la technique de décompte pour savoir que les invités, les chroniqueurs sont d'extrême droite? On ne le saura jamais. Sinon que s'ils sont collaborateurs à des journaux comme Causeur ou L'Incorrect, ils sont d'extrême droite. Sachez, Causeur, L'Incorrect, d'extrême droite. Okay? Donc là, le critère pour ou Valeurs Actuelles, donc le critère pour savoir si un homme ou une femme est d'extrême droite, c'est le journal auquel il est associé. Qu'est-ce qui permet de fonder cette étiquette? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette étiquette? Et deux, qu'est-ce qui permet de la coller à tel ou tel journal? On ne le saura pas en lisant le rapport de M. François Jost. Pour parler de notre émission, Face à l'info, c'est le rapport qui est utilisé. Je cite. Donc, on dit qu'à Face à l'info, il n'y a pas d'homme politique, mais Face à l'info n'accueille aucun homme ou femme politique, mais tous les jours, les mêmes chroniqueurs ultra-conservateurs,
merci,
Dimitri Pavlenko, Charlotte Dornelas, Eugénie Bastier ou Mathieu Bock-Côté. Désolé, messieurs.
Premièrement, tous les jours.
Peut-être faudrait-il rappeler que notre ami Eugénie Bastier, que nous estimons, a participé à quelques émissions de Face à l'info, mais n'est pas au cœur de notre... Donc, je note que dans le rapport, il y a quelques petites inexactitudes. Ensuite, on m'expliquera de quelle manière Dimitri Pavlenko ou Marc Menon, je prends la peine de le nommer de temps en temps, il est sur ce plateau. De quelle manière Marc Menon
premier jour
est un ultra-conservateur. Je cherche toutes les définitions possibles de l'ultra-conservateur et je n'y rencontre pas Marc le libertin, si je peux me permettre. De quelle manière notre ami Guillaume Bigot, qui s'entête un homme de gauche, ça le concerne, mais il le dit avec attachement, est-ce un ultra-conservateur? Et moi, le mot conservateur, si vous voulez me le coller, je dis pas non, mais pourquoi ultra? C'est quoi la différence entre conservateur et ultra-conservateur? Je veux dire, ça devient un peu fou. Donc là, j'essaie de comprendre. Donc ça, c'est une affirmation qui est censée dire, regardez à quel point CNews s'est orienté. C'est lancé comme ça et on est censé prendre ça au sérieux. On nous explique aussi, c'est intéressant, il y a la comparaison avec Fox News. C'est mentionné ce matin, mais je m'excuse, mais Fox News, ceux qui connaissent un peu Fox News savent que c'est pas du tout la même...
J'ai jamais regardé Fox News de ma vie.
Ah, mais moi, je connais.
Lui non plus, je l'ai dit.
C'est drôle, effectivement, il faisait la comparaison, mais aucune connaissance de la chose. C'est assez intéressant. Ensuite, il va nous donner un exemple, j'y reviendrai un peu plus tard, de faits divers montés en épingle. Et là, il nous explique, vous savez, on a souvent parlé de ça ici, par exemple, à Crépol, au moment, s'agissait-il d'un fait divers ou d'un fait de société? M. François Jost nous affirme que ce sont des faits divers montés en épingle et dès lors, il ne serait pas légitime de leur accorder une grande importance. C'est assez intéressant comme point de vue. Donc, l'interprétation des faits nous permet de savoir si on doit, oui ou non, parler d'un fait. Et François Jost nous dira, lui, assurément, si un fait est un fait divers ou un fait de société et si on va parler ou ne pas en parler. Mais j'y reviens parce que c'est fondamental, parce que ça, c'est l'élément que tous rappellent ces jours-ci, mais avec un grand malaise. Tous conviennent que CNews respecte le pluralisme tel que fixé par la loi. Il faut juste le rappeler, c'est important. Donc, le Conseil d'État, du rapport de RSF, qui est fondé sur un rapport...
Non autorisé, non officiel.
Bon, non autorisé, tout est autorisé, mais je dirais d'une médiocrité intellectuelle épouvantable.
N'a pas la...
Au final, mauvais rapport, association militante, et au final, le Conseil d'État, tout ça, on en appelle quand même une logique, on fabrique un nouveau droit. On crée du droit en prétendant imposer le droit. Dans les circonstances, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis, je crois, la weaponization of justice. Je traduis, c'est l'instrumentalisation politique de la justice pour persécuter juridiquement ou politiquement des adversaires ou des gens que l'on considère comme tels. Et parce qu'on décide que ce journal, parce que ce magazine, cette chaîne télé, on considère qu'elle est dans l'opposition, hein, parce qu'on c'est comme ça qu'on traite les choses, qu'elle tient un discours dangereux du point de vue de leur conception de l'ordre public, on se donne dès lors le droit de le persécuter. Moi, je ne serais pas surpris d'apprendre « chaîne d'opposition menacée de fermeture au Daguestan ». Je suis plus surpris de l'apprendre pour un pays comme la France.
Les réactions politiques sont dispersées. D'ailleurs, je prends celle de David Lisnard. À l'instant, je cite, « Tout confirme qu'il va s'agir dans les prochains mois et années de défendre la démocratie, c'est-à-dire nos libertés. Elle est attaquée de l'extérieur par des régimes dictatoriaux, de l'intérieur par les forces noires extrémistes, woke, islamistes, etc., mais aussi par le dirigisme. » Qu'en retenir pour l'instant de ces réactions dispersées?
Ah ben, c'est intéressant de vous mentionner Lisnard, parce qu'il nomme, je pense, l'enjeu fondamental, c'est celui de la démocratie. Il y a quelques observations. Je note pour l'instant, il y a un enthousiasme dans la gauche radicale et la gauche médiatique. Vous savez, surtout chez les pseudo-experts des médias, qui sont souvent convoqués par France Info, convoqués par Le Monde, convoqués par Libé. Des experts apparemment très objectifs, dont le principal objectif dans la vie consiste à censurer tout ce qu'ils n'aiment pas. Ils sont dans une croisade permanente contre CNews. On verra pourquoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est eux disent que c'est une décision historique, exceptionnelle, merveilleuse. C'est une si belle journée lorsqu'on décide de réprimer la liberté d'expression. On nous dit même, d'ailleurs c'est ce que François Jost dit aussi, qu'en fait la liberté d'expression va être servie par la décision du Conseil d'État. Hein, c'est exceptionnel. C'est comme si je vous dis je vais manger 50 tartes au sucre et je vais maigrir. Hein, vous vous dites qu'il y a quelque chose là-dedans qui tourne pas rond. Olivier Faure nous dit chaîne d'extrême droite, hein, évidemment, donc il était très heureux de redire ça. Émeric Caron aussi.
Et qui n'est jamais invité alors qu'il est invité. Hein.
Ah non mais...
Fermons la parenthèse.
Ce n'est pas un détail. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ici? Parce que là, d'où vient cet acharnement? Qu'est-ce qu'ils appellent chaîne d'extrême droite? C'est qu'on ne pardonne pas à CNews deux choses. D'abord, d'utiliser un autre système de qualification, entre guillemets, ou de catégorisation de la réalité que celui prescrit par une certaine orthodoxie idéologique. Donc, on nous disait, je reviens sur l'élément fait divers. On dit ici, quelquefois, c'est pas un fait divers, c'est un fait important de la société. C'est un fait de société, c'est même un fait politique. Si vous affirmez ça, vous êtes pour ces défenseurs de l'orthodoxie au seuil de la fake news et vous êtes en fait au seuil d'un moment où il faudrait condamner tout simplement votre propos. Je vais citer un élément encore une fois du rapport Jost hein, qu'il va falloir le faire lire aux étudiants en journalisme pour expliquer c'est quoi un mauvais rapport. Au fil des jours, on constate que plus de 3 des 4 ou 5 informations au cœur de la matinale de CNews n'ont pas d'existence au même moment à l'antenne de BFM TV. CNews ne retient pas forcément les informations qui font l'actualité pour ses concurrents. En insistant fortement sur les dangers de l'immigration et de l'insécurité, la chaîne crée un monde où l'information est sélectionnée en fonction de ses propres valeurs, portées par des chroniqueurs qui interviennent pour dire ce qu'il faut penser des informations. Vous vous rendez compte, ce que ça nous dit, c'est que l'importance accordée à à l'insécurité, à l'immigration, c'est le fruit d'un travail de propagande, d'une chaîne qui créerait artificiellement ces problèmes, qui ne relèverait pas de la réalité. C'est assez étonnant. Autre chose qui est assez amusante, on dit de Pascal Praud, c'est assez drôle parce qu'il y a une attaque contre Praud, qu'il dit qu'il prétend incarner l'objectivité. Ben, de ce point de vue, soit de savoir si c'est vrai, puisqu'il prétend, dit « je ne suis que le témoin de la réalité », ben, je dirais que sur toutes les autres chaînes, il y a cette prétention aussi. Hein. C'est-à-dire, partout, ils disent « on est l'objectivité, on est l'objectivité », mais au même moment, ils disent « subjectivité trop poussée chez Praud ». Là, je ne comprends plus. Donc, soit il est trop objectif, il prétend être trop objectif, soit il prétend être trop subjectif, mais on ne peut pas être les deux à la fois. Quoi qu'il en soit, j'y reviens, nous sommes devant un coup de force politique porté manifestement par une mouvance qui va de RSF et qui se rend jusqu'au Conseil d'État et qui, dans les faits, veut mater ce qui est vu comme un média dissident.
Je pense, parenthèse, qu'on est en train de vivre un moment très important dans l'histoire de l'audiovisuel français. Quelle conclusion politique tirez-vous de tout cela, Mathieu Bocquet?
La même que Lisnard, en fait. Je pense que c'est un enjeu démocratique fondamental ici. Tous ceux qui, aujourd'hui, ne se mobilisent pas contre cette décision, qui relève en fait d'une logique de persécution politique, consentent à la prochaine persécution qui viendra. Ça va être leur tour un jour, je tiens à les rassurer. Pour l'instant, c'est CNews. Il y en aura un autre après. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On est devant un régime qui diabolise ses opposants systématiquement, les extrêmes droitisants. On est devant un régime qui veut restreindre aujourd'hui l'accès aux médias. On est devant un régime qui utilise ou qui a annoncé en d'autres circonstances qu'il utiliserait les institutions administratives ou juridiques de l'État pour empêcher des gens d'appliquer leur programme s'ils gagnaient les élections. Vous savez, on a souvent cru qu'il fallait croire à la bonne foi de nos adversaires. Moi, je n'y crois plus. Je pense qu'on est devant des gens qui veulent très sérieusement censurer. Mais au moins, j'arrive avec une bonne nouvelle aujourd'hui, cela dit, du moins, je crois. On se demandait de quelle manière, hier, nous pourrions nommer l'institut à venir, essentiel, qui fichera les journalistes pour savoir comment vous catégoriser, Christine, comment catégoriser Marc, comment ficher Charlotte, comment ficher Bigot, comment me ficher pour savoir de quelle manière est décompté dans le grand décompte du Conseil d'État. Alors, je propose un nom, ça m'est venu aujourd'hui, c'est le service de la transparence audiovisuelle supervisant l'information, l'Astasi.
Énorme, énorme. Plus, est-ce que ça serait indépendant?
On verra. L'indépendance, c'est qu'on la connaît aujourd'hui.
Nouvelle autorité administrative indépendante.
C'est pas mal.
Mais attention, tout sous la domination du Conseil d'État. En tout cas, c'est vrai que l'ARCOM est quand même en très mauvaise position par rapport... Le Conseil d'État met l'ARCOM en mauvaise position par rapport à tout cela, puisque l'ARCOM ne fait qu'appliquer la loi, uniquement la loi, et dit que CNews applique justement la loi. Votre réaction par rapport à ce matin, Charlotte Dornelas, on fait un rapide tour de table, on a beaucoup de sujets internationaux, nationaux à aborder ce soir.
Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment eu de réponse, en fait, sur le fond. Il fait la comparaison avec Fox News. Il ne peut pas citer un nom de journaliste. Je lui parle de cette comparaison, entre BFM TV et CNews, en lui demandant qui décide, qui a la bonne ligne, auquel tous les autres doivent se conformer, il n'y a pas de réponse non plus. Je lui parle d'exemples extrêmement précis d'un manque de pluralisme évident dans d'autres rédactions qui n'ont jamais mobilisé, parfois même pas l'ARCOM, mais surtout pas Reporters sans frontières. Il n'y a pas de réponse non plus. Et sur cette question, c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas abordée ce matin, mais cette question du fait divers, de monter en épingle, et de la question de l'insécurité, de l'immigration, qui sont des sujets traités à CNews et peut-être beaucoup moins ailleurs. Moi, la seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait basculer d'un fait divers à un fait de société. Alors en effet, il y a des regards différents, mais j'aimerais poser la question de la disproportion dans le traitement. Alors d'abord, il y a de réels faits divers, c'est-à-dire le truc abominable d'un monstre qui rencontre par exemple la petite Maëlys, cette affaire de Nordal-Lelandais, et alors là, c'est pas nouveau, malheureusement, ce sont des faits réellement divers qui ont toujours passionné nos instincts et donc dans la presse. En revanche, il y a des faits qui pourraient être divers et qui sont considérés comme des faits de société et parfois traités de manière massive ailleurs. L'affaire Depardieu, par exemple, l'affaire Pierre Palmade à l'époque. Donc ça permet, un, de parler des violences faites aux femmes, deux, de parler des accidents de la route, par exemple, sous stupéfiants. Et là, il n'y a pas de disproportion. Donc qui décide, en fait, quand un fait de divers devient un fait de société? Les seuls dont il ne faudrait pas parler, c'est quand ça concerne l'insécurité qui touche les Français quotidiennement dans la rue. C'est étonnant, quand même, comme analyse.
En tout cas, le téléspectateur est bouleversé. On le voit aussi sur les réseaux sociaux. Vous dites que certains à gauche s'en félicitent, mais je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien. Je suis CNews et qui sont bouleversés par tout ce qui se passe.
Non, mais il y a de quoi rire, parce que de se vouloir référent de la liberté en disant « voilà, c'est à partir de telle ligne ». Moi, quand j'ai débuté dans ce métier, il y avait la conférence de rédaction le matin et on prenait toute la presse. Et entre la une de Le Monde, la une de François, j'ai jamais vu beaucoup d'analogies. Entre la une de Paris Jour ou la une du Figaro, j'ai jamais vu beaucoup d'analogies. Même chose entre l'Aurore et des journaux comme, j'ai dit, Le Parisien. Enfin, la diversité de la presse, c'est ça. C'est donc ça l'essence même de notre métier. Puis après, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Ces gens ont un mépris pour les journalistes en général. Il y a ceux qui sont dans la vitrine, on nous voit un peu plus que les autres, mais tous ceux qui sont dans la rédaction, vous croyez qu'ils font un interrogatoire, ils passent devant le patron de la rédaction en disant « Alors, vous votez pour qui? Que pensez-vous? Quelles seront vos tendances ?» Vous vous rendez compte comment on... Oui, pardon.
Non, mais c'est intéressant, on va marquer une pause et justement, je rebondis sur ce que vous dites parce que lorsque je m'occupais des temps de parole au CSA, toutes les chaînes venaient me voir en me disant « Madame Kelly, s'il vous plaît, faites sauter les temps de parole des politiques ». Où sont ces médias qui venaient me voir en 2012 me demander de faire sauter le temps de parole des politiques parce qu'ils n'y arrivaient pas? Où sont ces rédactions qui venaient me voir me demander de faire sauter ce décompte impossible, impossible à réaliser? Où sont ces chaînes et ces radios qui venaient crier, supplier pour enlever ce décompte? J'aimerais bien les entendre aujourd'hui parce que là, ça sera le décompte sur tous les animateurs, tous les chroniqueurs, tous ceux qui passent à l'antenne 24 heures sur 24. Mission impossible. On marque une pause, mais dites-moi où vous êtes quand même. À tout de suite.
Christophe, je suis atterré. Je te le dis. Quand on a créé Reportage Frontières, c'était exactement pour ne pas avoir cette attitude-là. Je me contrefous de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe à l'antenne de CNews. Tu devrais être le premier à te réjouir qu'un certain nombre de points de vue qui n'étaient jamais entendus sur des médias et des télévisions en France le sont grâce à CNews. C'est ça ton boulot. Ton boulot, c'est pas de quoi. Tu es l'arbitre des élégances maintenant. Tu vas nous dire ce qui convient de faire ou de pas faire. Mais enfin, on s'en contrefout de ça. Reportage Frontières, ça a été créé. Pardon, c'est moi qui l'ai créé avec trois journalistes. Tu le sais, je l'ai dirigé pendant 23 ans. Ça a été fait pour défendre des gens dont on trouvait des opinions, pour certaines, de temps en temps, même indéfendables, figure-toi. On allait sortir des gens de prison dont je ne partageais rien, absolument.
Moment de gêne, Guillaume Bigot.
Oui, bien sûr, parce que là, il est démasqué d'une certaine façon. On voit bien que c'est quelqu'un qui est en service commandé, que c'est quelqu'un qui est là pour défendre une doxa, un petit moulin à prière qui est celui de la classe dirigeante. Si on se transporte dans les années d'avant-guerre, il y a tout le monde dit « vive la ligne Maginot, vive la ligne Maginot ». Donc il y a des idées à la mode, il faut les répéter jusqu'à plus soif. Et donc, si vous avez une chaîne ou un média qui dit autre chose que la ligne Maginot va nous protéger, oh, Rosco référence, c'est horrible. Voilà. Et donc cet homme qui est supposé défendre la liberté de la presse, y compris les journalistes qui sont torturé, arrêté, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met, comme le sociologue Daniel Lindenberg, à faire le rappel à l'ordre. Il est au service, en fait, d'un ordre établi.
Et on a l'impression qu'aucune voix dissidente ne pourra jamais être entendue, mais qui va décider?
Le rappel à l'ordre quand on se veut référent de la liberté, vous vous rendez compte?
Il y a quelque chose qui cloche.
On peut parce que la doxa devient l'objectivité, c'est ça le problème. Donc il se réfère à la doxa en disant « Regardez, vous vous écartez de la doxa ». Donc si vous ne répétez pas le moulin à prière conformiste, eh bien vous êtes forcément dans la subjectivité.
Monsieur Deloire a fait état de la stratégie du putois.
Vous savez que Reporters sans frontières s'est battu sur les pratiques du propriétaire de CNews, Vincent Bolloré, vis-à-vis de ses rédactions. Avec, disons-le, encore ces derniers jours, j'observe que ces faits n'ont pas été évoqués ici, mais deux sociétés des journalistes de deux médias du groupe qui ont dû interrompre leurs travaux. Des rédactions où il y a eu à plusieurs reprises la stratégie du putois. On met quelqu'un qui fait fuir les journalistes, et avec des rédactions... laissez-moi terminer.
Ce que vous dites est absolument faux, pardonnez-moi. C'est même insultant. Non, mais ce que vous dites est faux et insultant. Mais ce que vous dites est faux et insultant.
Dernier mot sur peut-être cette stratégie. Mathieu, ensuite Guillaume, et ensuite on passe à...
Monsieur Deloire espère qu'on fasse des listes. J'aimerais qu'il me fasse la liste des putois. Je veux savoir qui sont les putois dont nous parle M. Deloire, ça m'intéresse.
Bon, on sait bien que animaliser l'opposant politique, c'est typique de la presse d'extrême droite, précisément des années 30. C'est ce qu'il faisait, les animaliser. Ensuite, il y a quelque chose d'inique, et ça a été rappelé très justement par Pascal Praud ce matin. Il disait, mais finalement, on invite des gens, c'est un défaut de pluralisme, on invite des gens, ils ne veulent pas venir. Donc en fait, ils vont vous reprocher quelque chose qu'ils fabriquent. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils balancent des boules puantes sur quelqu'un en disant « c'est un facho, c'est un facho ». Et alors après, tout le monde part. Ben oui, parce que vous lui avez justement mis cette odeur d'une certaine façon idéologique de facho pour faire fuir tout le monde. Et après, vous décrivez que les gens fuient. Mais c'est incroyable, en fait.
Ce qui est surprenant, c'est de voir que le Conseil d'État tombe dans ce piège. Là, c'est quand même une décision de justice. Donc, c'est assez surprenant quand même que le Conseil d'État tombe dans ce piège par rapport à l'ARCOM, qui est une autorité administrative indépendante, efficace dans son travail, en tout cas.
C'est essentiel ce que vous venez de dire, quand même.
Pourquoi ?
D'un Gugus, premier, qui est le faux scientifique, un deuxième Gugus, et qu'à la fin, des gens qui se veulent représentants d'une institution, défenseurs de la démocratie, qui deviennent des censeurs sur des éléments aussi peu crédibles, aussi peu pertinents, on est dans un monde d'invraisemblance.
L'ARCOM a 6 mois pour obéir au Conseil d'État. Nous avons 6 mois pour suivre tout cela. Autre sujet, Guillaume Bigot. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a exhorté l'Europe à entrer dans, je cite, une économie de guerre à grande échelle. C'est très important, selon vous, et vous allez nous dire pourquoi, de nous arrêter sur ces déclarations. Sommes-nous aux portes d'une guerre avec la Russie?
Pour comprendre ce qu'a dit le chancelier Scholz, il faut le recontextualiser. Il y a 3 contextes, me semble-t-il. D'abord, quand le chancelier Scholz dit ça, il répond en fait à un discours du candidat Trump en Caroline du Sud la veille, qui dit quelque chose d'assez étonnant. Enfin, on connaît Trump, hein, c'est un provocateur. Parlant de Poutine et des États membres de l'OTAN, il dit « Je l'encourage, Poutine, je l'encourage à vous faire ce qu'il veut ». Autrement dit, pourquoi? Parce que vous n'avez pas payé le financement, votre propre défense à travers l'OTAN. Comme vous ne financez pas l'OTAN, alors je dis à Poutine d'aller, d'une certaine façon, je lâche tel un pitbull, comme ça il va vous mordre. C'est assez incroyable, c'est un provocateur évidemment. Et donc, qu'est-ce que dit Scholz? Là, il est en train, il visite une usine Rheinmetall qui produit des obus et il dit, bon, bah voilà, il faut que les Européens prennent le relais. Deuxième élément de contexte, c'est ce qui se passe sur le front en Ukraine. En ce moment, on n'en parle pas, bon, mais voilà, mais les Russes avancent, les Ukrainiens reculent. On sait que Zelensky avait demandé à la Suisse de contacter la Chine pour que la Chine contacte la Russie. Donc même le leadership ukrainien commence à vouloir peut-être négocier ou mettre un genou à terre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zelensky, il a limogé le chef d'état-major Zaloujny, qui était très très apprécié. Donc on voit que ça se passe pas très bien. Les Américains sont moins enclins à financer. Donc là, ce que dit Scholz le comprend aussi. Il est en train de dire aux Ukrainiens, tenez encore le coup, et s'il y a des négociations, on met un peu la pression sur Poutine. Troisième élément de contexte, il y a des bruits de fond. En Europe, qui sont plutôt des bruits de bottes. Et effectivement, et c'est là où je veux en venir, ça me paraît intéressant parce que ce que dit Scholz, ça vient après toutes sortes de déclarations où on voit que des responsables européens, soit de l'Union européenne, soit de l'OTAN, ont un discours extrêmement alarmiste, finalement, à l'égard de la Russie. Alors, le ministre des Allemands de la Défense, Boris Pistorius, il y a à peine un mois, il a dit « on sera en guerre, l'Europe sera en guerre avec Poutine dans 5 ans, maximum ». On voit la déclaration. Alors, c'est pas un rigolo, hein, c'est juste le ministre de la Défense d'Allemagne.
Incroyable.
Ensuite, on a le chef d'état-major norvégien, peut-être parce que la Norvège est plus proche de la Russie, je ne sais pas, qui dit « non, c'est pas 5 ans, c'est 2-3 ans, en fait, maximum. Dans 2-3 ans, Poutine va passer à l'attaque ». Ensuite, mais bon, évidemment, c'est... son homologue en Suède, ainsi qu'un ministre, me semble-t-il, le ministre de la Défense civile en Suède, dit aux Suédois, hein, il y a peu de temps, il y a un mois de ça, il dit de toute façon la guerre peut être imminente. Donc il faut que les citoyens se préparent à la guerre en Suède. On a Boris Johnson, ancien Premier ministre britannique, qui dit qu'il faudrait envisager des plans de mobilisation générale en Grande-Bretagne. Et on a l'OTAN qui lance des manœuvres les plus importantes depuis la guerre froide dans la Baltique. Donc là, il y a 2 solutions. Soit c'est une manœuvre de guerre psychologique pour mettre la pression sur Poutine, soit ces gens-là ont des informations qu'on n'a pas et c'est effectivement très très inquiétant.
Alors les Européens ont-ils raison de craindre une guerre avec Moscou? Le risque est-il réel ou pas du tout?
Je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, mais l'enjeu est tellement lourd, c'est tellement grave, et en matière militaire, il faut s'attendre à tout et se préparer à tout, qu'on ne peut pas écarter ce risque d'un revers de la main. Il faut toujours se préparer, y compris à l'impensable, et surtout peut-être à l'impensable. Donc on ne sait jamais. Hein, il vaut mieux rester prudent. Disons qu'en envahissant l'Ukraine, Poutine a montré qu'il était capable de recourir à la force. Disons aussi que ce n'est pas à la frontière entre, disons, la Russie, les pays baltes, la Russie, la Moldavie, la Pologne, etc. Ce n'est pas les foyers de tension qui manquent. Il y a des populations russophones de l'autre côté de la frontière. Il y a des territoires qui sont contestés. Il y a un couloir, le couloir de Slovaquie, qui débouche sur une base russe sur la Baltique qui s'appelle Kaliningrad. Il y a une base russe à l'intérieur de la Moldavie en Transnistrie. Donc il y aurait des foyers de tension. Quelqu'un qui voudrait provoquer la guerre trouverait des prétextes. Mais il faut aussi savoir raison garder. Cette affaire est précisément trop grave pour s'emballer ou raconter n'importe quoi. D'abord, peut-être éviter de tomber dans l'anachronisme poutinien. On a suffisamment dénoncé Poutine qui disait « on va dénazifier l'Ukraine ». pour ne pas nous emballer en permanence en disant l'Ukraine, c'est la Tchécoslovaquie, Poutine, c'est Hitler, après avoir l'ogre russe, après avoir dévoré l'Ukraine, il sera pas rassasié, il va ensuite attaquer les Pays-Baltes, il va attaquer la Pologne, etc. Voilà, on n'arrive pas à penser la guerre autrement qu'avec un grand méchant qui veut la guerre. Mais ça, c'est Hitler, et c'est heureusement pas tous les matins. Et ensuite, à part quelques olibrius à la télévision russe ou même le président du Parlement tchétchène qui avait dit « les Tchétchènes doivent aller jusqu'à Berlin », personne au Kremlin, aucun officiel russe, et pas, ni Poutine ni les officiels du Kremlin, n'ont jamais eu de revendication territoriale concernant des pays de l'OTAN ou l'Union européenne. Donc c'est complètement absurde. Ensuite, on peut se dire « mais la Russie, 140 millions d'habitants, une démographie qui est plutôt en berne, qui n'arrive pas de toute façon complètement à se sortir de ce problème de la guerre avec l'Ukraine, même s'ils gagnent, ça, quand même, ça leur a coûté très cher cette affaire », qu'est-ce qu'ils vont aller attaquer l'Union européenne ou l'OTAN avec des puissances nucléaires, même si les États-Unis se retirent, il y a encore la France, il y a encore la Grande-Bretagne, l'Union européenne c'est 400 millions, enfin ça n'a pas de sens.
Mais alors comment expliquer que les Européens ne cessent de brandir cette menace de guerre ?
Moi, je me dis que les élections européennes approchent, qu'il y a beaucoup de gouvernements en Europe qui sont quand même assez mal en point. La croissance en Europe, elle est quand même très 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 faible, il y a la crise des agriculteurs. Donc, par exemple, en Allemagne, si on prend l'Allemagne, d'ailleurs, c'est Scholz qui s'est exprimé récemment, bah, le patronat allemand, beaucoup au sein du patronat allemand, veulent qu'on arrête les sanctions, parce que ça coûte trop cher à l'Allemagne. Donc, quand Scholz se rend à Rheinmetall, qui est une entreprise cotée en Allemagne, et qui dit, écoutez, peut-être qu'on a un nouveau modèle économique en se lançant dans l'industrie d'armement, peut-être c'est un moyen de récupérer la situation. On a en France le discours de politique générale dont on avait parlé, de Gabriel Attal, qui dit, quiconque veut sortir de l'Union européenne est au service d'autres intérêts. Si on regarde d'autres intérêts étrangers, donc intelligence avec l'ennemi. Donc il y a un moyen de diaboliser tous les adversaires en leur disant si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous êtes finalement, vous ne vous rendez pas compte du risque de guerre avec la Russie. Et puis je crois qu'il y a un autre argument qui est, vous savez, l'adage à toute chose malheur est bon. Certains européistes fédéralistes se disent, bah écoutez, l'Ukraine c'est l'Europe. L'Ukraine est attaquée, donc l'Europe est attaquée, donc l'Europe est en guerre. Et ils savent bien qu'historiquement, on ne peut pas créer un État, on ne peut pas créer un peuple, on ne peut pas créer un affectio societatis sans la guerre. On ne se pose qu'en s'opposant d'une certaine façon. Donc je pense qu'il y a cette tentative,
en fait, exactement, en déclarant l'ennemi.
Se dire, l'Union européenne, c'est un projet qui prend l'eau de partout. On le voit avec l'immigration, on le voit avec l'agriculture, on le voit avec l'énergie. Je ne dis pas que c'est comme l'Argentine qui s'est jetée sur les Malouines, mais enfin, il y a l'idée que si on se trouvait un ennemi commun, si on disait que Poutine allait nous attaquer, peut-être qu'on pourrait sauver l'idée européenne, finalement.
Un dernier mot, peut-être, pour terminer. Votre conclusion, moralité, est-ce que c'est pas dangereux de crier au loup, en une phrase ?
Ou à l'ours russe, en tout cas, oui, je pense que c'est très dangereux parce qu'on est sur un modèle de guerre type Hitler. Je pense que c'est plus 14-18 qui va nous faire peur. 14-18, il faut rappeler que c'est une guerre d'engrenage, que personne n'a réellement voulu, qui était une guerre catastrophique. Et là, est-ce qu'on est bien sûr, si on brandit cette menace et cet épouvantail de la guerre avec Poutine, est-ce qu'on est bien sûr de comprendre exactement quelles seront les réactions de Poutine, ce qu'il a exactement dans la tête ? Est-ce qu'on sait, par exemple, que la Russie a révisé sa doctrine nucléaire et que la Russie, maintenant, envisage d'utiliser en premier l'arme nucléaire tactique au cas où les intérêts vitaux de la Russie seraient menacés ? Ensuite, est-ce que l'Europe est prête ? Non, l'Europe n'a même pas été fichue de donner 1 million d'obus à l'Ukraine et maintenant, fait des retomontades contre la Russie. C'est quand même assez inquiétant. Je vous signale que l'année dernière, la Russie a utilisé 1 million d'obus par mois. Et nous, on n'a pas été fichus de leur donner 1 million d'obus en une année. Ce que disait Theodore Roosevelt, c'est que la puissance, ça consiste à parler très gentiment et très calmement quand on tient un gros bâton à la main. Ce que fait l'Union européenne, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'Union européenne vocifère, hurle de manière agressive, les mains nues.
Merci pour votre regard. C'était intéressant de se poser sur ce sujet, puisque entendre des bruits de guerre quand même à ce niveau-là, ça fait plusieurs jours qu'on a envie d'en parler au niveau de l'Union européenne. On va parler de l'hommage à Robert Badinter en deux temps. Dans un instant avec vous, Mathieu Bock-Côté, et d'abord avec vous, Marc Menant. Alors que le président de la République a prononcé l'éloge funèbre pour saluer la mémoire de Robert Badinter, aujourd'hui ancien garde des Sceaux, votre nom devra s'inscrire au Panthéon, a précisé Emmanuel Macron. Pour Robert Badinter, il a même dit que le combat contre la mort devient sa raison d'être à Robert Badinter. Et vous avez envie de vous poser ce soir sur l'histoire de l'abolition de la peine de mort. Marc Menant, vous allez nous raconter comment c'est l'obsession d'une vie, en fait, celle de Robert Badinter, à partir de l'exécution du 28 novembre 1972 de Roger Bontemps.
Et ne pas oublier ses origines. Ses parents viennent du grand empire russe, ils étaient juifs et ils se marient quelques semaines avant sa naissance en 1928. Et cet enfant, parce que il est enfant quand on est au moment de la guerre, en 1940. En 1942, son père est en déportation. Son père, il ne le reverra jamais. Il subit toutes les humiliations dans le bus. C'est derrière, on n'a pas le droit de s'asseoir. Vous êtes juif, il n'y a plus de boulot pour les juifs. C'est l'horreur absolue. Il lit « Les juifs sont des rats ». Voilà ce que ce garçon va subir dès son plus jeune âge. Et avec bien, la vie qui reprend, et lui, la douleur d'avoir perdu son père, et comme si, eh bien, on ne faisait pas attention à ce qu'il avait subi. Et puis, il est très imprégné de quoi ? De son éducation à Janson de Sailly. Il y a Condorcet, il y a Clémenceau, il y a Jaurès, tous ces personnages qui condamnaient la peine de mort en se rappelant que la peine de mort, à cette époque-là, elle pouvait toucher le pauvre bouc qui avait piqué un quignon de pain. Ce qui n'est plus le cas en 1971, quand il est confronté à une réalité, celle d'une prise d'otage, avec Claude Buffet, qui a les mains qui ont touché le sang, c'est un criminel, condamné à perpétuité, et puis Roger Bontemps, un garçon qui a des condamnations multiples, mais qui n'a jamais tué. Et ils se retrouvent à Clairvaux ensemble, ils ont déjà eu quelques tentatives d'évasion, et là ils se font porter pâle et dans l'infirmerie ils prennent trois otages, un prisonnier, une infirmière de 35 ans et un gardien de 25 ans. Et quand les forces de l'ordre interviennent pour libérer les otages, on découvre qu'il y a deux morts. L'infirmière, 35 ans, deux enfants, et le gardien, 25 ans. Mais on découvrira que l'auteur de ce crime, c'est Claude Buffet. Roger Bontemps a été l'homme qui participait à la prise d'otage, mais il n'a pas décidé de cette fin sinistre. Alors, quand Robert Badinter le défend quelques mois plus tard, il met en avant cela. Et il dit, on ne peut pas faire tomber cette tête, c'est une honte absolue. Et pourtant, il sera condamné à mort, comme Claude Buffet et le président Pompidou ne veut pas accorder sa grâce. Et là, il a un livre, il faut le lire, ça s'appelle « Exécution ». Il raconte comment il apprend le soir que le lendemain, Bontemps sera exécuté. Qu'à 4 heures du matin, il devra se lever. Oh, de toute façon, il n'a pas beaucoup dormi. Il s'est regardé dans la glace, il dit « je n'ai pas une tête d'avocat ». Mais lui, il n'a pas une tête d'assassin non plus. Personne n'est une tête d'assassin. Et à 5 heures, on est un petit groupe. Vous savez, c'est la conspiration de l'horreur. On a quelques gardiens, le directeur de la prison et le procureur qui n'a pas pris le courage de venir se présenter. Il était malade. Et là, on voit tomber la tête dans le panier, la tête d'un innocent. Cet homme à qui on n'a rien pu dire, que la République, simplement, n'avait pas su le défendre. Et de là, son combat sera de faire disparaître l'abolition de la peine de mort. Ce qui est incroyable, le hasard va le placer quelques mois plus tard, en 1976, face à un jeune garçon qui a 24 ans, qui s'appelle Patrick Henry. Et Patrick Henry tue un enfant de 7 ans, Philippe Bertrand, petit bonhomme. Et pendant 15 jours, il joue les fanfarons. Il dit « le salaud qui a fait ça, il faut le guillotiner. On ne peut pas laisser des ordures pareilles en libération devant la presse. » Voilà ce qu'il dit. Et ensuite, on le découvre qu'il a tué cet enfant. Et là, Robert Badinter, devant le tribunal, va plaider non pas le cas de Patrick Henry, mais l'horreur de la peine de mort. Il dit « oui, le crime est un malheur, il n'y a pas un homme, pas une femme de cœur, de raison, de responsabilité qui ne souhaite combattre le crime. Mais il ne faut pas que ce soit la vengeance. La peur de la récidive, c'est tuer un homme par prudence. Et ça, ce n'est pas possible. » Il dit « la honte pour l'homme, c'est de faire en sorte qu'un homme tombe légalement tué par l'État. » Voilà contre quoi il se bat. Alors néanmoins, il écrirait à un autre moment, il ne faut pas avoir peur de se poser des questions. Les questions ne sont jamais fausses, les questions ne mentent pas, les questions sont innocentes même quand on les pose avec des arrière-pensées. Eh bien la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'à un moment donné, un individu ne se trouve pas exclu de l'humanité, n'est plus un homme en tant que tel, mais une sorte d'animal, un barbare absolu, et que faire de lui ? L'enferme-t-on avec tout ce que cela implique ? Ou a-t-on le courage de le faire disparaître ? C'est ce que Robert Badinter appelle l'élimination. Mais il y a une différence entre exécution et élimination. Est-ce que celle-ci n'est pas, malheureusement, quelque chose d'indispensable à un moment donné? Ça fait des parties, des interrogations qu'on peut avoir, même quand on adhérait aux propos de Robert Badinter et à toute la campagne qui fut la sienne.
Merci beaucoup pour ce retour sur l'histoire de l'abolition de la peine de mort. Dans un instant, on parlera de l'hommage avec vous, avec des questions. On va oser se poser des petites questions qui fâchent, si vous permettez. Alors, vous avez vu, notre plateau est largement décloré de pétales de rose, puisque c'est la Saint-Valentin, mais c'est aussi le carême, ma belle Charlotte Dornelas. Et beaucoup de questions autour du carême. Quelle est donc concrètement cette étape de la vie chrétienne dont on entend finalement parler assez peu, et en même temps, j'ai l'impression qu'on entend parler de plus en plus. J'aimerais bien comprendre un peu ce que c'est que le
carême.
Grâce
au pluralisme dans les médias, sans doute.
L'histoire du téléspectateur.
C'est ça. Le carême commence en effet aujourd'hui par le mercredi des cendres. Alors voilà, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. En gros, c'est le jour où les rameaux, c'est le dimanche qui précède Pâques. Vous savez, le Christ est accueilli dans Jérusalem avec des rameaux. Et donc les rameaux sont mis dans les maisons pendant toute l'année. Et on rapporte les rameaux qui sont brûlés et qui donc deviennent des cendres à la fin de l'année, puisqu'il n'y a pas de rameaux dans les maisons pendant le carême, et ils sont réduits en cendres et imposés sur le front des fidèles pendant la messe du mercredi des cendres. Et le prêtre, au moment où il impose les cendres en faisant une croix, dit « Soit souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière, soit convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle », ce qui dans le fond veut dire la même chose, en tout cas dans le catholicisme. Et depuis l'Antiquité chrétienne, la période qui précède, donc la période du carême, qui précède Pâques, est une période qui est consacrée à la préparation du baptême. Encore aujourd'hui, les baptêmes d'adultes se font dans la nuit de Pâques, la plupart du temps. Et donc, c'est soit pour les catéchumènes, ceux qui se préparent au baptême, donc c'est les 40 jours de préparation à recevoir le baptême, soit pour les catholiques qui sont déjà baptisés, de revenir aux promesses de son baptême, aux engagements qui sont pris le jour du baptême et donc au cœur de la foi. Donc c'est vraiment ça que signifie, on va dire, ces 40 jours. La bonne nouvelle, évidemment, quand on dit « convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle dont il est question, c'est la victoire sur la mort, c'est donc Pâques, donc la fin du carême. Et la conversion, c'est l'appel à se recentrer sur l'essentiel. Et l'Église définit l'essentiel selon trois points. Dieu, donc par le biais de la prière, soi-même, son âme par le biais de la pénitence, c'est-à-dire les privations pour se recentrer sur l'essentiel, et la charité par le biais de l'aumône qui est très encouragée pendant le carême. Les 40 jours, c'est tout simplement la référence, un, dans l'Ancien Testament aux 40 années passées par le peuple d'Israël entre sa sortie d'Égypte et l'arrivée sur la terre promise, 40 années, et dans le Nouveau Testament, c'est évidemment le Christ au désert, entre son baptême et le début de sa vie publique, où il passe 40 jours au désert. Alors évidemment, le mot carême, enfin le nom carême dans l'imaginaire est très associé à la question de la pénitence. Il ne faut pas le voir comme simplement une privation et une tristesse. C'est vraiment la question de la purification. Et donc quand on se prive, on pense à autre chose, évidemment. Et l'idée est de se priver de ce qui relève plus de la passion que de la véritable liberté, on va dire. Et si ce n'est pas un jour férié, pour répondre à la question que vous posiez dans le sommaire, simplement parce que c'est moins une fête en soi, le début du carême, qu'un temps de préparation, le début d'un temps de préparation. Et Pâques, non seulement le dimanche est férié en France, mais même le lundi de Pâques est férié, puisqu'autrefois, il y avait l'octave de Pâques entière qui était fériée, donc c'est-à-dire les 8 jours qui suivaient.
Mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément à quoi correspond le carême. Et il y a une comparaison qui se fait assez régulièrement avec le ramadan. Est-ce qu'elle est pertinente? Comment expliquer qu'on en parle nettement moins?
Alors, c'est vrai, Marc était étonné tout à l'heure quand vous évoquiez la comparaison entre les deux. Mais alors moi, on m'a déjà posé la question, alors c'est quoi le carême? Et plusieurs personnes m'ont répondu en France, ici, ah mais c'est une sorte de ramadan chrétien,
oui, c'est
finalement.
Ce qu'on entend.
C'est vraiment une référence finalement qui s'est inversée.
Oui.
Culturellement, c'est intéressant. Alors, je pense que, alors, ils sont comparés en raison de la question du jeûne, tout simplement, qui est associé à la fois au carême et au ramadan. Il est également question dans le ramadan de se rapprocher de Dieu, de la question du partage et par le biais du jeûne. Donc la démarche est assez similaire dans la religion. La différence, c'est que c'est pas pas la même fête à la fin. Il n'y a pas de résurrection du Christ, évidemment, à la fin du Ramadan. Et par ailleurs, les obligations ne sont pas les mêmes. L'obligation dans le Ramadan, vous savez, vous ne mangez pas du, et vous ne buvez pas d'ailleurs du lever au coucher du soleil. Il n'y a pas du tout de relations sexuelles. Enfin, c'est des, l'islam étant une orthopraxie, c'est beaucoup plus défini. Dans le carême, les seules obligations, puisque c'est souvent une question qu'on pose, on va répondre, les seules obligations réelles, c'est le mercredi des cendres et le vendredi saint, qui est le jour de la passion du Christ, donc trois jours avant Pâques. Là, on demande jeûne et abstinence toute la journée, et le reste du temps, c'est pas de viande le vendredi, et pour le reste, ce sont des choix personnels en fonction de ses propres passions, et si votre passion triste, la plus grande, c'est la colère ou l'égoïsme, c'est sur ce terrain, évidemment, que vous vous rapprochez de Dieu, donc c'est pas nécessairement se priver de bonbons quand on n'en mange jamais.
Donc on choisit en fait son abstinence.
Voilà, exactement. Et après, pour ce qui est la question du traitement, en effet, qui est assez faible, on va dire, je pense que la première raison, c'est le rapport des catholiques eux-mêmes à cette question du jeûne et du carême. Je vous cite une phrase de l'Évangile qui est lue le mercredi des cendres au début du carême. « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. » Et donc, dans cet Évangile, on explique « Si vous jeûnez, parfumez-vous, ayez le sourire et n'allez pas vous faire remarquer à dire que vous jeûnez. » Donc évidemment, une fois que vous entendez cet Évangile, bah, vous n'allez pas vous faire remarquer et crier sur tous les toits que c'est le début du jeûne et que, mon Dieu, comme c'est difficile. Donc, par la force des choses, il est écrit dans l'Évangile la raison pour laquelle c'est peut-être moins traité qu'autre chose. La deuxième chose, évidemment, médiatiquement, parce que ça pourrait être un sujet d'intérêt malgré tout, il y a d'abord, une baisse drastique de la pratique religieuse qui fait que moins de gens sont concernés, évidemment. Et la deuxième chose, c'est que, oui, il y a plus d'attention portée au Ramadan, d'abord parce qu'il y a plus de revendications. C'est une religion qui est plus, qui a plus de vivacité, on va dire, dans la revendication, notamment dans l'espace public. Et le catholicisme, médiatiquement, mais même politiquement, est une religion qui est souvent jugée désuète, passée, voire même dépassée, notamment dans son traitement. On s'intéresse plus aux minorités, c'est pas nouveau et c'est pas le cas seulement sur la question du carême. Mais en effet, quand le carême devient dans l'esprit de beaucoup de Français une sorte de ramadan chrétien, c'est que l'inversion sur les repères culturels est assez aboutie, me semble-t-il.
Marc Menant, si vous pourrez me répondre dans un instant en 10 secondes, réfléchissez à ma question. Si jamais vous passez au carême, qu'est-ce que vous allez vous abstenir de quoi précisément? Réfléchissez. Je pose ma dernière question à Charlotte. Vous qui n'êtes pas croyant, athée, tout ce qu'on veut. Charlotte Dornelas, dernière question là-dessus. Nous fêtons aujourd'hui également la Saint-Valentin. Je disais encore, regardez notre plateau comme il est beau, plein de pétales de roses. Est-ce que c'est également une fête chrétienne, la Saint-Valentin? Qu'est-ce que c'est? Là, c'est marqué sur le calendrier, c'est un Saint-Valentin.
Alors justement, c'est marqué sur les calendriers, mais plus dans le calendrier liturgique de l'Église. En gros, la réponse à votre question, c'est un peu oui et non. Ça ne l'est plus aujourd'hui, mais c'est vrai que le Saint-Valentin, on se dit, ça doit bien venir de quelque part. À l'origine, d'abord, dans l'Église, il y a plusieurs Saint-Valentin, des Valentins qui ont été canonisés, il y en a plusieurs. C'est dans les premiers temps de l'Église, c'est des histoires assez difficiles d'accès, on va dire, et où se mêle parfois aussi la légende, pour certains d'entre eux, et notamment dans l'évolution. Mais c'est surtout qu'à l'époque, dans les premiers temps du christianisme, les Romains célébraient le 15 février, le dieu de la fécondité, pendant les fêtes de Lupercus que probablement Marc
mais ça vient demain.
Non mais on fêtait la... Donc il y avait d'abord des sacrifices d'animaux, des danses, des fouets, les hommes couraient nus dans les rues et fouettaient le ventre des femmes, notamment parce que c'était un signe de fécondité.
Symbolique.
Voilà. Et les premiers chrétiens, évidemment, appréciaient assez moyennement la fête. Et en 492, le pape leur interdit aux chrétiens de participer à ces fêtes-là. Quelques années plus tard, il canonise Valentin et sa fête est le 14 février. Et à ce moment-là, pour essayer de lutter, vous savez, précisément de l'emprise culturelle, on va dire, sur la société, le pape, lance la fête de la purification de la Vierge, donc qui est le 2 février, et les chrétiens sont appelés à défiler avec des chandelles et des flambeaux, et le 2 février, c'est la chandeleur. Là, pour le coup, ça vient d'ici. Et comme ça ne suffit pas, parce que les gens font les deux, il organise la célébration d'un saint la veille de ces Lupercales, donc de ces fêtes, pour tenter précisément d'absorber la chose, et c'est la Saint-Valentin. Mais les Romains s'en emparent, ça les gêne pas, ils font la fête le lendemain, mais aussi la veille. Et là, ce sont des fêtes libertines, notamment avec des loteries amoureuses qui sont organisées. Il faut attendre 1000 ans pour que Valentin soit désigné par l'Église patron des amoureux. C'est sous le pontificat à l'époque d'Alexandre VI. Et là, on commence à s'offrir des poèmes et des cartes, mais c'est pas entre des époux. C'est vraiment un homme qui offre des cartes à une femme. Et alors là, c'est repris par le monde anglo-saxon et ça part aux États-Unis. Et là, ça devient beaucoup plus commercial. Et ça revient en 1950, en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, par le biais des soldats américains qui réimportent cette fête chez nous telle qu'elle se présente aujourd'hui. Si bien qu'en 1969, et là c'est le pape Paul VI, il retire cette fête du calendrier parce que c'est le moment où il fait le tri un peu entre les saints dont on connaît réellement la vie et ceux qui relèvent plus de la légende. Et aujourd'hui, pour l'Église catholique, c'est la fête de Cyril et Méthode, qui sont les copatrons de l'Europe.
Très intéressant. Merci beaucoup. C'est intéressant de se pencher sur le calendrier et sur notre histoire et qui continue aujourd'hui. Marc Menant, si on voit que le carême, c'est l'abstinence et puis on choisit son abstinence, ça serait quoi pour vous en deux secondes?
Ben, l'abstinence, ça sera de ne plus regarder la télévision, en particulier BFM, puisque j'ai compris que l'abstinence devait conduire à la liberté. Je tiens à être libre et par conséquent, je ne regarderai pas les confrères pendant 40 jours.
Bon, d'accord. Et vous, Mathieu?
Si je dis me priver de légumes, je crois que je n'ai pas compris l'esprit de la chose.
Et vous, si ça serait pour
Je me priverais de dire du mal de l'Europe, peut-être, je ne sais pas.
Non, vous ne l'essayerez pas.
Allez, dernier sujet. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Marc, pour ces précisions. Dernier sujet. Rebondissons par rapport à l'hommage de Robert Badinter aujourd'hui, Mathieu Bock-Côté, hommage mérité. Mais on sent, je le disais en titre, ici, là, quelques petites réserves, quelques petites voix discordantes, peut-être méchantes. Est-ce qu'il n'y a pas un malaise qui ne dit pas son nom derrière cet hommage national à Robert Badinter?
Ouais, je crois que vous visez juste, parce que fondamentalement, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Donc, c'est un homme qui mérite, qui est un grand serviteur de la vie publique, et l'hommage est rendu pour cela. Tous conviennent du fait que il faut célébrer un homme de conviction qui s'est tenu à ses convictions. J'ignore par ailleurs s'il faudra dès lors appliquer ce principe dans d'autres circonstances. Est-ce que dès qu'un homme de conviction qui est demeuré fidèle à ses convictions meurt, on doit le célébrer de la même manière? Mais quoi qu'il en soit, c'est un homme et il est associé à un événement historique majeur, l'abolition de la peine de mort, qui est passé à l'histoire. Tout ça, on le comprend. Et nous, je crois que nous avons le respect élémentaire. Nous sommes dans la période de deuil pour la famille, pour la société, donc il y a ce respect qui me semble élémentaire et qui relève de l'esprit de civilisation. Ensuite, on constate que son héritage est plus complexe qu'il n'y paraît. La peine de mort, on donne cet exemple. Il ne s'agit pas de contester la peine de mort, l'abolition de la peine de mort aujourd'hui, mais on peut observer que la peine de mort a moins été abolie que transférée. Elle a été transférée, d'autres l'exercent aujourd'hui. Les terroristes islamistes, les voyous, les racailles, les trafiquants de drogue. Donc le fait est que nous sommes dans une société où l'État s'est voulu de moins en moins violent, très bien, mais où la société est de plus en plus violente et où l'État, ayant renoncé à la peine capitale et renonçant sans cesse aux peines de substitution qu'il proposait, est devenu dans cet esprit de plus en plus laxiste. Et il y a derrière ça la sociologie de l'excuse, à laquelle n'était pas étrangère Robert Badinter. Cette idée qu'il faut sacraliser en toutes circonstances les droits de celui qu'on condamne, très bien, mais la victime est un peu la victime collatérale, justement, des 40 dernières années. L'état de droit, comme on aime l'appeler, a sacrifié les victimes comme si elles étaient finalement... Parce que la vraie victime, plusieurs se sont dit, ne sont-ce pas finalement les voyous? C'est la société mauvaise qui pousse des hommes à commettre des crimes. Dès lors, est-ce qu'on doit rééquilibrer notre sens de la victime et du criminel? Autre chose, et moi ça c'est une déclaration que je trouve peut-être un peu plus grave. Au moment, je crois, du débat sur l'identité nationale, Robert Badinter a dit, vous savez, je crois que c'était sur France Inter, les musulmans d'aujourd'hui sont l'équivalent des juifs d'hier. Alors, autrement dit, il expliquait qu'il y avait un processus de diabolisation, de fabrication du bouc émissaire au cœur de la culture européenne, il faut toujours frapper quelqu'un. Donc, autrefois, c'était les Juifs, aujourd'hui, c'est les musulmans. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on le sait, l'antisémitisme qui frappe aujourd'hui l'Europe, ce n'est pas l'antisémitisme résiduel de ce qu'on appelle l'extrême droite, c'est un antisémitisme d'importation islamiste. Donc, l'opposition, le refus qu'a eu Robert Badinter pendant longtemps de critiquer l'immigration massive et ses conséquences, l'islamisation et l'islamisme, a contribué au retour d'un antisémitisme qu'il voulait dénoncer et qu'il dénonçait. Ayant tout ça à l'esprit, on comprend qu'il soit permis d'ajouter quelques réserves à cet hommage par ailleurs mérité.
En 10 secondes, disons 30 secondes, finalement, est-ce que la gauche ne réussit pas à capter l'imaginaire du pays, à faire en sorte que ses propres héros deviennent les héros de tous les Français?
Oui, je crois qu'on a un peu de ça, c'est-à-dire Robert...
On entend un peu ça ici ou là.
Ben, je pense que c'est un héros très certainement à gauche, et c'est un homme qui suscite des réserves et de l'admiration à droite.
Ce n'est pas un héros au-delà de toutes les appartenances politiques.
À la rigueur, oui, il va être canonisé, c'est la canonisation républicaine. Mais cela dit, derrière ça, je vois, on l'a vu un peu, je crois que c'était sur BFM ce week-end, si je ne me trompe pas, où Marion Maréchal refuse de dire « moi, je ne rends pas hommage », dit-elle. Et le journaliste, qui je ne sais pas comment il est fiché politiquement, d'ailleurs, ça m'intéresserait, dit non, vous voulez rendre hommage? Rendez hommage! Rendez hommage! Rendez hommage! Donc, l'hommage est obligatoire dans les circonstances. Merci. Quand on a ça à l'esprit, on constate que c'est une manière de fabriquer de force, quelquefois, des héros qui peuvent être admirables, mais qui peuvent être critiqués aussi.
Merci beaucoup pour votre regard, Mathieu de Bocoté, tout en délicatesse. Vous aimez CNews, vous voulez retrouver nos émissions en replay, rendez-vous sur l'application CNews. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore, le QR code qui s'affiche permet de télécharger l'application ou encore à l'aide de votre smartphone pour regarder nos émissions. Merci à tous, l'heure des Pro 2 tout de suite. Bonne Saint-Valentin.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.